Vous écoutez On lit pour vous.
Guide pratique pour avoir sa consommation d'eau. Un texte d'Henri Ouellet Vézina, publié dans la presse du 30 mai 2026. La Ville de Montréal demande à plus d'un million de résidents de réduire leur consommation d'eau cet été en raison de la détérioration d'une importante conduite. Outre les gestes de base, que peut-on faire pour soulager le réseau? Un tel appel à la population devrait-il nous étonner? La presse fait le point avec Sarah Domer, experte en génie hydrologique à Polytechnique. Question. Quel serait votre meilleur conseil à un Montréalais concerné par l'appel de la ville? Je dirais qu'il faut surtout prendre en compte l'heure de la journée. Si on utilise l'eau à des moments achalandés, on crée une demande supplémentaire. On l'a vu récemment avec les matchs du Canadien. Lors des pauses dans plusieurs villes, on voyait une augmentation de l'utilisation de l'eau. Ça induit une pression forte sur le réseau. Ce qu'on peut faire pour réduire ça, c'est de penser au moment où on fait sa lessive. On peut choisir des heures de la journée où la demande est moins élevée. Réduire les pointes d'utilisation, ça peut être très utile à l'échelle de la ville. Avez-vous des exemples concrets de comportements à adopter? Des choses que vous faites dans votre quotidien? Par exemple, dans mon jardin, j'ai choisi des plantes plus résistantes aux périodes de sécheresse. On peut tout à fait choisir ce qu'on met dans son jardin à long terme pour réduire ses besoins d'arrosage. Et ce n'est pas nécessaire d'arroser un jardin tout le temps. Ce n'est qu'une façon de faire, mais chaque personne doit réfléchir à sa situation en particulier. Si vous avez une entrée de service en plomb, ça peut paraître difficile, surtout qu'on vous a peut-être demandé dans le passé de laisser couler l'eau avant de l'utiliser. Le grand défi, ce sera cet été, quand beaucoup de gens vont vouloir utiliser l'eau pour se rafraîchir dans la ruelle avec les enfants et les boyaux. Il faudra y penser. Chaque Montréalais consomme près de 90 litres d'eau par jour, de plus que la moyenne canadienne. Pourquoi consomme-t-on plus d'eau dans la métropole? On n'a pas de tarification de l'eau à Montréal, contrairement à bien d'autres villes canadiennes, et souvent, ça ne nous pousse pas à réparer nos fuites dans la toilette ou dans le bain, voire dans la cuisine. Dans les autres villes canadiennes, la tarification aide. À London, en Ontario, mon frère avait une facture de 1 000 $ parce qu'il avait une fuite dans le sous-sol de sa maison qui n'était pas réparée. C'est quand même un montant important. Si on a des sommes comme ça à payer, on va les réparer, nos fuites. Politiquement, ce n'est pas très populaire, mais c'est certain que ça aiderait beaucoup. D'autres villes ont-elles déjà demandé à leurs concitoyens de réduire leur consommation d'eau? Oui, certaines. Calgary, par exemple, a vécu une situation semblable par le passé. On avait imposé des restrictions d'utilisation, mais il fallait quand même faire des rappels récurrents aux gens. Au final, on a vu une bonne participation de la communauté. Peu importe où ça se fait, ça reste vraiment un effort continu. Dans notre cas, c'est certain que ça va être difficile à Montréal parce que les habitudes sont là et il y a toute une culture autour de l'eau. Mais dans les dernières années, avec les réparations de conduite, il y a quand même eu des apprentissages qui ont été faits par tout le monde. La crise des infrastructures est connue à Montréal. Comment faudrait-il s'y attaquer réellement? Il y a un gros déficit d'entretien. Et il faut faire les travaux. Le défi, ce sont toujours les coûts importants, mais aussi la coordination des travaux. Les gens n'aiment pas ça. Ça entraîne beaucoup de plaintes en raison des entraves à la circulation. On doit réaliser que ce sont des infrastructures critiques. La bonne nouvelle, c'est que dans les dernières années, il y a eu une augmentation de la cadence de réparation des infrastructures. Il faut continuer en ce sens-là. Les investissements à venir sont prometteurs et il y aura d'autres besoins, comme celui d'améliorer l'épuration des eaux usées. Ça aussi, ce sera des coûts. Il y a la gestion de ce qu'on a déjà, mais aussi les futures infrastructures nécessaires au développement durable de la ville. En complément, 10 façons d'économiser de l'eau. Prendre plus de courtes douches le plus souvent possible. Cessez l'arrosage extérieur si possible, ou veillez à le minimiser et privilégiez le balai pour nettoyer votre terrain. Ne pas laisser couler l'eau en se brossant les dents, en se rasant ou en faisant la vaisselle. Achetez des pommes de douche à faible débit et des toilettes à faible débit. Vérifiez que les canalisations résidentielles n'ont pas de fuite ou de rupture. Faire fonctionner le lave-vaisselle à pleine charge afin de réduire le nombre de fois où la machine est en marche. Régler les niveaux d'eau de la laveuse de manière à éviter une consommation excessive pour les petites charges. À l'extérieur, si vous disposez d'un jardin, mettre du paillis autour des plantes pour retenir l'humidité et réduire l'évaporation. Se munir d'un baril récupérateur d'eau de pluie en vente dans plusieurs commerces et dans certaines mairies d'arrondissement. Enfin, dans la cuisine, installer des aérateurs sur les robinets. Ces appareils mélangent de l'air avec de l'eau, abaissant le débit sans affecter la pression de l'eau. La source de ces conseils, Ville de Montréal et Fondation David Suzuki. Et ceci termine ce texte de Henri Ouellette Vézina, titré « Guide pratique pour revoir sa consommation d'eau », publié dans la presse du 30 mai 2026.
Prochaine danse, un nouvel outil web pour trouver du soutien plus facilement, un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 5 mars 2026 dans Virage. Au Québec, un adulte sur trois agit comme personne proche aidante. Pourtant, plusieurs ignorent où trouver du soutien pour eux-mêmes. C'est pour répondre à cette réalité que l'appui pour les proches aidants a lancé le portail L'aide à portée de mots en février 2026. Je suis fatiguée. Je n'ai personne à qui parler. Je perds patience. C'est souvent par ces phrases simples que les personnes proches aidantes décrivent leur réalité. Or, il n'est pas toujours évident de traduire ce ressenti en demande précise ou de savoir vers quelles ressources se tourner. Avec l'aide à portée de mots, nous avons voulu partir de ce que les gens ressentent, de leurs propres mots, pour les accompagner vers du soutien concret, explique Guillaume Joseph, directeur général de l'appui. Ainsi, le portail invite les gens à sélectionner des phrases qui reflètent leur état. Fatigue, isolement, découragement, mais aussi leurs besoins, ainsi que la situation de la personne qu'ils soutiennent. Après avoir inscrit leur code postal, ils peuvent consulter une liste de ressources adaptées à leur réalité. Naturellement, ceux qui appellent notre ligne « Info aidant » nous parlent d'abord de ce qu'ils vivent, sans demander de référence précise. Nous sommes partis de cette expérience pour construire l'outil, précise-t-il. Le répertoire regroupe plus de 1200 ressources à travers le Québec. En dehors du réseau de la santé et des services sociaux, il existe un vaste réseau d'organismes communautaires, d'associations ou d'entreprises d'économie sociale qui organisent des groupes d'entraide, des cafés-rencontres, des haltes répit ou qui offrent du soutien psychosocial, donne-t-il en exemple. L'objectif est donc double, faciliter l'accès à l'aide et mieux faire connaître l'offre existante, se reconnaître comme proche aidant. Le portail mise également sur des témoignages afin de briser l'isolement et de refléter la diversité des parcours. Car de nombreuses personnes jouent ce rôle sans se définir comme proche aidante. La définition est pourtant large, rappelle le directeur général, et inclut toute personne qui offre du soutien à un proche en perte d'autonomie ou vivant avec un handicap ou des limitations, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Et le lien dépasse le cadre familial. On peut soutenir un ami, un voisin, un collègue. Souvent, les proches aidants cherchent d'abord de l'aide pour la personne qu'ils accompagnent, reléguant leurs propres besoins au second plan. Lorsqu'elles finissent par demander du soutien, elles sont bien souvent épuisées, observe Guillaume Joseph. En proposant un accès simple et basé sur les émotions vécues, le portail veut encourager une démarche plus précoce. Tout le monde n'est pas à l'aise de prendre le téléphone pour expliquer ce qu'il traverse. L'outil ouvre donc une nouvelle porte vers le soutien, résume le directeur général. Une politique à surveiller. Le lancement du portail coïncide avec l'adoption de la politique nationale de soutien à domicile, PSAD, intitulée « Mieux chez soi ». Parmi les mesures annoncées par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, la possibilité pour certaines personnes proches aidantes d'être rémunérées, notamment par l'entremise d'une allocation autonomie à domicile. Pour l'appui, il s'agit d'un pas important vers une meilleure reconnaissance du rôle des proches aidants. Le DG estime toutefois que les montants alloués par le gouvernement au soutien à domicile devraient continuer d'augmenter, alors que le Québec investit moins à ce chapitre que plusieurs autres provinces et pays et que les besoins iront grandissant. La FADOC salue aussi ce soutien envers les proches aidants et attend avec intérêt de connaître les critères d'admissibilité qui y seront associés. Elle accueille aussi favorablement la politique, tout en soulignant que son succès dépendra de sa mise en œuvre. L'organisation voit d'un bon œil le rôle des CLSC comme porte d'entrée vers les services, ce qui pourrait simplifier le parcours des usagers. Elle affirme qu'elle suivra de près l'application de la politique afin qu'elle se traduise concrètement par une prise en charge de toutes les personnes en attente d'un premier service de soutien à domicile, ainsi que par une augmentation du nombre d'heures de service offertes par prestataire. En attendant, l'aide à portée de mots se veut un outil complémentaire pour reconnaître ce que les personnes vivent, trouver les bons mots et accéder plus rapidement au soutien nécessaire. C'était Proche Aidance, un nouvel outil web pour trouver du soutien plus facilement, un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 5 mars 2026 dans Virage.
Écrevisses, vernis à ongles et barres ouvertes. Un texte de Philippe Mercure, paru le 3 juin 2026 dans La Presse. Des étudiants au baccalauréat de McGill publient chaque année une vraie revue scientifique. Notre chroniqueur a assisté au lancement de celle-ci, une véritable célébration de la recherche. Un vendredi soir. Un bar ouvert. Une cinquantaine d'étudiants réunis dans une pièce un peu surchauffée d'un somptueux bâtiment de l'université McGill. Une fête, en quelque sorte. Mais celle-ci est plus cérébrale que celle qui anime généralement les campus. Je me trouve au lancement d'une revue scientifique entièrement réalisée par des étudiants au baccalauréat. Une revue savante avec révision par les pairs comme les grandes publications que sont Nature ou Science. Une revue qui contient des articles pointus aux titres souvent incompréhensibles aux non-initiés, du genre « La sélection positive sur le gène MAMLD1 chez les humains suggère une adaptation pléiotropique au cours de l'évolution. » La différence, c'est qu'ici, tous les articles découlent de recherches menées par des étudiants au baccalauréat et non de doctorants ou de professeurs réputés. Ce sont aussi eux qui produisent la revue, édition, illustration, diffusion. Les étudiants au baccalauréat ne représentent pas la prochaine génération de chercheurs. Ils sont des scientifiques à part entière, lance au micro Benjamin Lévesque Kinder, étudiant en neurosciences à McGill et l'un des deux co-éditeurs en chef de la revue. La cérémonie se déroule à la Maison Thompson, une ancienne résidence privée du campus de l'Université McGill convertie en club social étudiant. Quant à la revue, elle s'appelle MSURJ, prononcée MSURJ à l'anglaise, pour McGill Science Undergraduate Research Journal. Fondée il y a plus de deux décennies, elle publie ce soir-là son 21e numéro. Le dévoilement de la couverture du numéro suscite des applaudissements nourris non sans raison. Elle est magnifique. Hoden Hacking, étudiant de deuxième année au baccalauréat en physique et en biologie, a créé une œuvre inspirée de l'un des articles scientifiques de la revue. Un article qui documente le potentiel de la stimulation électrique pour favoriser la croissance des plantes. Il est difficile de publier dans MSURJ. Nous sommes loin d'accepter tous les manuscrits, précise Lisa Xi, étudiante en immunologie et autre coéditrice en chef de la revue. Les auteurs doivent non seulement décrire des travaux novateurs, mais aussi franchir l'étape de la fameuse révision par les pairs, l'un des piliers assurant le sérieux des publications scientifiques. Prenons l'exemple de Corinne Lapierre, qui fête ce vendredi-là la publication de son tout premier article scientifique. Un été, en effectuant des travaux de terrain à la réserve naturelle Gault de l'Université McGill au Mont-Saint-Hilaire, l'étudiante en biologie aperçoit une écrevisse dans les eaux du lac Hertel. Intriguée, elle attrape le crustacé à main nue et le photographie. J'étais très surprise. On était très au courant de toutes les espèces qu'il y a sur la montagne. On avait un inventaire, mais l'écrevisse n'y figurait pas, dit-elle. L'étudiante pousse ses recherches dans le lac Hertel et dans un ruisseau des environs. Elle finit par découvrir non pas une, mais deux espèces d'écrevisses. Son équipe et elle ont beau fouiller, elle ne trouve aucune mention d'une telle chose. Une surprise considérant le fait que McGill a créé son aire de conservation et de recherche sur le Mont Saint-Hilaire en 1958. C'est exactement pour ça qu'il existe des revues scientifiques. Pour annoncer des découvertes, diffuser les connaissances et faire progresser le savoir collectif. Corinne soumet un premier jet de son article au comité éditorial de MSURJ. Il décrit les caractéristiques des 41 écrevisses attrapées, mesurées, photographiées et marquées de vernis à ongles, eh oui, pour éviter de capturer plusieurs fois le même individu. Les éditeurs de la revue s'assurent que les standards de la publication scientifique sont respectés et transmettent de premiers commentaires à l'autrice. Puis, ils se mettent à la recherche de spécialistes du même domaine pour évaluer en profondeur la qualité de l'article. Ces réviseurs, généralement des professeurs d'université, sont les seuls non-étudiants à intervenir. Les réviseurs peuvent s'avérer très difficiles à trouver, témoigne Nathalie Dumonceau, étudiante en psychologie à McGill et l'une des éditrices de MSURJ. Il faut dénicher des gens qui ont une expertise très nichée. On peut contacter entre 10 et 100 experts de partout dans le monde pour trouver les 3 réviseurs nécessaires pour un article. Les réviseurs exigent presque toujours des précisions et des modifications. Il y a beaucoup de feedback qui vient avec ça. Ça m'a pris plusieurs semaines pour faire les changements demandés, raconte Corinne Lapierre. Si les étudiants de McGill sont évidemment les plus nombreux à soumettre des articles à MSURJ, des manuscrits du monde entier lui sont acheminés. Le 21e volume contient par exemple des articles publiés par des étudiants torontois, américains, espagnols et allemands. Corinne Lapierre estime que cette expérience lui a mieux fait comprendre le processus de publication scientifique. « Je sais que, quand je vais arriver au doctorat, la première chose qu'on va me demander, c'est « Combien as-tu d'articles publiés ?» ajoute-t-elle. Fait non négligeable, les articles publiés dans MSURJ possèdent un identifiant, un DOI dans le jargon pour Digital Object Identifier, qui leur permet d'être répertoriés par les sites de recherche spécialisés. Bref, il s'agit de véritables publications scientifiques. Être chercheur, c'est beaucoup plus que de générer des découvertes scientifiques. Ça implique aussi de communiquer ses résultats, de savoir lire la science des autres et d'en évaluer la qualité. C'est tout cet apprentissage qui se fait au sein d'une revue comme M-Search. Je souligne aussi un truc qui n'est pas banal. Les scientifiques sont souvent les dindons de la farce dans le merveilleux monde de la publication scientifique. Ils produisent les articles, les révisent gratuitement, puis se font facturer une fortune par les éditeurs des grandes revues pour les consulter. En s'organisant eux-mêmes, les étudiants derrière M-Search offrent une habile voie de contournement à ce problème. Parce que leur revue est entièrement gratuite et accessible sur le web. Et le plus beau, c'est qu'ils n'ont pas attendu un cours ou un programme pour agir et s'approprier les mécanismes de la publication scientifique. Il me semble que c'est inspirant et que leur sens de l'initiative justifie amplement un arrêt au bar ouvert installé pour l'occasion dans la splendide maison Thompson. C'était « Écrevisses, vernis à ongles et bar ouvert », un texte de Philippe Mercure paru le 3 juin 2026 dans La Presse.
Ce n'est pas une statistique, c'est un échec collectif. Un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 18 avril 2026 dans La Presse. La nuit du 15 avril 2025, pendant que vous dormiez, des équipes de bénévoles parcouraient les rues de 15 régions du Québec. Elles comptaient des gens comme vous, comme moi, des gens qui n'avaient nulle part où aller. Résultat, 12 077 personnes. 12 077 vies humaines en situation d'itinérance visible, en une seule nuit, dans une seule province. Et ce chiffre, le ministère de la Santé le dit lui-même, est une sous-estimation. À l'itinéraire, on ne lit pas ces chiffres dans un rapport. On les reçoit en pleine face. Ils se présentent devant nous, chaque jour au café Monsieur Paul, chaque soir à la halte. C'est plein. Toujours plein. Et il y a des gens à qui on doit dire non. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'il n'y a tout simplement plus de place. L'itinérance a changé de visage et de territoire. Oubliez l'image du sans-abri montréalais sous un pont. Cette époque est révolue. Elle a quitté les centres-villes. Elle s'est installée partout. L'Abitibi-Témiscamingue, plus 119% en 3 ans. Les Laurentides, plus 73,7%. La Côte-Nord, plus 65,1%. Laval, plus 59,4%. Pas une seule région du Québec n'a été épargnée. Pas une. Et le chiffre qui devrait empêcher de dormir chaque élu de cette province, l'itinérance à l'extérieur, les gens qui dorment sous des tentes, dans des campements, augmentent 2 fois plus vite que l'itinérance hébergée. Dans les Laurentides, 38% des personnes itinérantes passent la nuit dehors. Des campements. Dans les Laurentides, en 2025, ce n'est plus une crise de grande ville, c'est une fracture nationale. Ce ne sont plus des autres. À Québec, en 2025, 60% des nouveaux usagers des ressources d'urgence n'avaient jamais connu la rue. Pas des marginaux, des locataires, des employés, des voisins. Un seul événement les sépare de vous. Ils n'ont pas eu de chance le jour où tout a basculé, et leur filet social n'a pas tenu, et personne n'est venu le réparer. L'itinérance, aujourd'hui, c'est le visage de la précarité généralisée. C'est ce qui arrive quand le filet social a trop de trous et que personne ne les répare. Pendant que la crise explose, le financement disparaît. Ces coupures ne tombent pas du ciel. Elles sont signées, décidées dans des bureaux climatisés par des gens qui ne passeront jamais une nuit dehors dans les Laurentides en janvier 2026. Le programme de réponse au campement, terminé. 25 millions retirés. 171 organismes touchés. Plus de 3000 personnes sans soutien. Et 86 % de ces organismes ne savent toujours pas comment combler le manque. Oui, d'autres programmes ont été annoncés. Des prolongations, des ajustements. Mais sur le terrain, une chose est claire. On a coupé avant de reconstruire. Et ça, les gens le paient maintenant. Ce que nous faisons, ce que nous voulons faire. 32 ans sur le terrain nous ont appris une chose. Quand la volonté existe, le chemin existe. Une halte montée en quelques jours le prouve. Ce qui manque, ce n'est pas le savoir-faire, c'est la volonté politique. On prépare la prochaine étape. Une halte chaleur nouvelle génération, ouverte à l'année, conçue comme un premier pas réel vers une sortie durable de la rue. Mais pour bâtir, il faut des ressources. Il faut un gouvernement qui comprenne une chose simple. Les organismes communautaires ne sont pas un luxe. Ils sont l'infrastructure humaine de cette société. Trois demandes concrètes, urgentes. Trois choses. Trois seulement. Un plan d'action en itinérance avec un financement récurrent, pas des projets pilotes qu'on coupe au printemps comme si la misère, elle, prenait congé. La reconduction des programmes fédéraux qui tombent à zéro. Et une vraie stratégie d'habitation sociale, pas juste des annonces, des logements, des murs, des clés. Le rapport gouvernemental s'intitule « Tout le monde compte ». C'est un beau titre. On sait compter les personnes en situation d'itinérance. On sait beaucoup moins prendre les décisions pour qu'elles disparaissent. Ce que ces 12 077 personnes attendent, ce n'est pas d'être comptées, c'est d'être vues, entendues, aidées. Et pour ça, il faudra beaucoup plus qu'un dénombrement. C'était 12 077. Ce n'est pas une statistique, c'est un échec collectif. Un texte de Luc Desjardins de L'Itinéraire, paru le 18 avril 2026 dans La Presse.